Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 17 mai. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et Marianne Murat. Au cours de cette émission, le journal, les sports, le point sur la campagne électorale en Australie. Et on parlera de la nouvelle première ministre en France. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce mardi 17 mai, le gouvernement fédéral publie les coûts de ses propositions politiques de sa campagne électorale, s'engageant à économiser 1 milliard de dollars supplémentaires au cours des 4 prochaines années. La Suède fait face à un obstacle de la part de la Turquie dans sa candidature à l'adhésion à l'OTAN. En Australie, la coalition indique qu'elle respecte entièrement ses promesses électorales fédérales et qu'elle améliore son résultat budgétaire de 104 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral affirme avoir proposé 35 politiques pour les coûts électoraux et 2 autres politiques seront soumises ce mardi pour être analysées par le Trésor. Le Parti travailliste devrait annoncer mardi un fonds pour la fabrication médicale de 1,5 milliard de dollars et ses coûts électoraux devraient être publié ce jeudi. Mais le trésorier Josh Frydenberg a déclaré que le dirigeant travailliste Anthony Albanese était faible car il n'avait jamais présenté de budget auparavant au public australien.
He and the Labour Party have not put forward one policy for independent costing by Treasury and Finance in clear contrast with the coalition who have put forward 35 policies. For costing by Treasury and Finance.
L'opposition fédérale dévoilera les coûts de ses promesses électorales plus tard cette semaine en mettant l'accent sur les capacités de manufacture et de fabrication en Australie. Le porte-parole du Trésor, Jim Chalmers, a déclaré sur Channel 7 que la planification budgétaire de son parti était plus responsable que le gouvernement.
Now the difference between our budget and the coalition budget will be really important investments in cleaner and cheaper energy and cheaper childcare and skills and opportunities for more Australians.
Le Premier ministre Scott Morrison demande aux électeurs de ne pas compter sur des candidats indépendants et à prendre pour acquis la forte économie du pays. La coalition traîne, selon les sondages, derrière les travaillistes, sur une base préférentielle de 54% à 46% à quelques jours du jour des élections fédérales. Scott Morrison a déclaré hier lundi sur l'ABC qu'il se concentrait sur la position économique de la coalition.
I mean, we have a federal police in the Solomon Islands right now, and we've had defence forces there also back in December. We are their first call on security. That has always been the case. That has not changed. And to suggest otherwise, I think would be wrong.
L'avocat représentant les proches des victimes tuées dans une fusillade aux États-Unis demande que le crime soit reconnu comme du terrorisme domestique. L'accusé de 18 ans, Peyton Gendron, s'est rendu à la police samedi après la mort par balle de 10 personnes à Buffalo. Des personnes âgées de 32 à 86 ans, la plupart des victimes étaient noires. Et l'avocat Ben Crump accuse le tireur de cibler la communauté afro-américaine.
This was an act of domestic terrorism perpetrated by a young white supremacist There is no question about his intentions.
Et puis, une autre fusillade mortelle dans une église californienne, motivée par la haine envers les Taïwanais. Le suspect a été identifié comme un immigrant chinois, David Chu, 68 ans, tandis que la victime décédée dans l'attaque est Dr. John Cheng. Le shérif de Orange County, Don Barnes, a déclaré que Dr. Cheng a tenté de désarmer le tireur et qu'il avait été touché par des coups de feu. Le FBI a lancé une enquête sur les crimes de haine et des résidents locaux comme Troy appellent à la fin de la violence.
I just know this area is just a big melting pot for Asians. I'm a Filipino. I'm not really familiar with the Taiwanese community, but I know that they have a huge presence in the area. So again, it's just very considerably shocking for something to happen to such a community.
Le vice-ministre ukrainien de la Défense a confirmé que plus de 260 combattants, dont certains grièvement blessés, ont été évacués de l'aciérie d'Azovstal dans le sud-est de l'Ukraine et emmenés dans des zones sous contrôle russe. Plus de 50 militaires ukrainiens blessés ont été évacués vers un hôpital et 211 autres vers Olenivka par un couloir humanitaire. On ne sait pas dans l'immédiat si les blessés seront considérés comme des prisonniers de guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité les équipes de sauvetage pour leurs efforts combinés.
Завдяки діям українських військових збройних сил України.
We hope that we will manage to save the life of our guys. There are heavily wounded among them. They're receiving medical help. I'd like to underline Ukraine needs Ukrainian heroes alive. It's our principle. I think every adequate person understands it. Our military and intelligence have started the operation to save Mariupol's defenders. The work continues to bring the guys home, and it requires delicacy and time.
La Suède a annoncé qu'elle postulait officiellement à l'adhésion au bloc de l'OTAN, abandonnant près de deux siècles de non-alignement militaire en échange de la sécurité à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'opinion publique en Suède s'était fermement opposée à l'adhésion à l'OTAN, mais le soutien a bondi presque du jour au lendemain après le début de l'invasion de l'Ukraine. La première ministre suédoise, Magdalena Andersson, a fait cette annonce lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de l'opposition du pays.
As a NATO member, Sweden would not only strengthen its own security, but also contribute to enhanced security in the Baltic Sea region and for NATO as a whole. Today, the working group's report and its conclusions were discussed in the Swedish Parliament, and the support for a Swedish application for NATO membership was broadly affirmed.
Le président turc a déclaré qu'il ne soutiendrait pas une candidature de la Suède ou de la Finlande à l'OTAN, mettant fin à toute tentative des délégués de faire valoir leurs arguments.
They're coming to Turkey on Monday. Are they coming to convince us? Well, excuse me, but they should not tire themselves. First of all, we would not say yes to those who impose sanctions on Turkey to join NATO, because then NATO would cease to be a security organization and become a place where representatives of terrorist organizations are concentrated.
Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin adeta.
Le président français Emmanuel Macron a nommé l'ancienne ministre du Travail, Elisabeth Borne, comme nouvelle première ministre du pays. Âgée de 61 ans, elle succède au premier ministre Jean Castex, qui a démissionné de ses fonctions hier lundi. Et tout à l'heure, dans l'émission, on vous présentera le portrait d'Elisabeth Borne. Le nouveau premier ministre du Sri Lanka a déclaré que le pays touché par la crise en était à son dernier jour de fourniture d'essence, les citoyens étant invités à ne pas se joindre aux longues files d'attente de carburant qui ont déclenché des semaines de manifestations anti-gouvernementales. Ranil Wickremesinghe, nommé premier ministre la semaine dernière, a déclaré que le pays avait un besoin urgent de 108 millions de dollars australiens en devises pour payer les importations essentielles, 2 cargaisons d'essence et 2 de diesel utilisant une ligne de crédit indienne pourraient apporter un soulagement, mais le Premier ministre affirme que le pays est également confronté à une pénurie de 14 médicaments essentiels.
The next couple of months will be the most difficult ones of our lives. We must prepare ourselves to make some sacrifices and face the challenges of this period. I have no desire to hide the truth and to lie to the public. Although these facts are unpleasant and terrifying, this is the true situation. For a short period, our future will be even more difficult than the tough times that we have passed. However, this period will not be long. In the coming months, our foreign allies will assist us.
Des responsables américains ont déclaré que le président Joe Biden avait approuvé le redéploiement des troupes américaines en Somalie. Le déploiement se fait à la demande du Pentagone pour soutenir la lutte contre le groupe militant Al-Shabaab. Donald Trump avait retiré environ 700 soldats américains du pays en 2020. Les masques ne sont plus obligatoires pour les passagers voyageant vers de nombreuses destinations au sein de l'Union européenne, mais certains pays du bloc des 27 nations maintiennent la règle du port du masque. Il s'agit notamment de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de l'Autriche, de Chypre, de l'Estonie, de Malte, des Pays-Bas et du Luxembourg. La France a levé l'exigence du masque dans les avions, les trains et les bus. Et en Chine, des campus en colère contre le confinement, surtout à l'université de Pékin. Reportage de Stéphane Lagarde pour RFI.
Même lieu d'habitation, même droit, clament les étudiants sur cette vidéo partagée par un professeur adjoint de l'université de Beida à Pékin. La grogne monte depuis une semaine et l'installation d'une palissade métallique empêchant les élèves de sortir et de commander leur repas sur le site de Wanliu, l'un des campus de cet établissement d'élite qui, comme toutes les universités chinoises partant de Covid, enferme les élèves dans leur dortoir. Un principal adjoint est intervenu dimanche soir, mégaphone à la main, leur demandant de rentrer dans leur pénate et promettant de faire tomber le mur. Sur les réseaux, certains ont remis en cause la sécurité de cette barrière, que feront les pompiers en cas d'incendie? D'autres ont critiqué le deux poids deux mesures des restrictions Covid, quand certains sur les campus, et notamment les enseignants, peuvent sortir à leur guise, alors que d'autres non. La question universitaire est particulièrement sensible à l'approche de l'anniversaire de la répression de Tiananmen le 4 juin prochain. Le pouvoir central s'inquiète également d'une transmission des mécontentements entre les confinés de Shanghai et les nouveaux confinés de la capitale chinoise.
Un nouveau rapport avertit que le réchauffement climatique a atteint des niveaux critiques dans des écosystèmes clés, notamment les glaciers de l'Antarctique occidental, la forêt amazonienne orientale et les systèmes coralliens du monde. En utilisant des données en temps réel, les auteurs du Breakthrough National Center for Climate Restoration, basé à Melbourne, ont découvert qu'entre 1,2 et 1,5 degrés Celsius de réchauffement climatique ont déjà été atteint dans ces régions et cela va accélérer les effets du changement climatique. Le rapport appelle à une action urgente pour atteindre zéro émission nette d'ici 2030. Le co-auteur du rapport, Ian Dunlop, affirme que les impacts climatiques se produisent plus rapidement que le processus d'examen de 5 ans mené par les scientifiques de l'ONU et qu'un leadership politique plus audacieux est nécessaire pour éviter le pire des cas.
You've got to try and limit the potential damage, and you need to keep doing that irrespective of what, you know, what's going on. You don't give up on this stuff, you have to keep going at it. So the decisions we take in the next 3 years will basically determine the future of humanity. I mean, this will determine where we're going to head, whether things get completely out of control or not.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 24 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 16. Hobart, 14. Canberra, 14 également. Sydney, 21. Brisbane, 26. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximale de 26 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 17 mai. Le gouvernement fédéral publie les coûts de ses propositions politiques de sa campagne électorale, s'engageant à économiser 1 milliard de dollars supplémentaires au cours des 4 prochaines années. Fin du journal. Merci de rester avec nous. Et après une pause, vous entendrez le journal des sports présenté par Marianne Murat.
Vous programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Des sports de votre mardi 17 mai 2022 et on commence avec du cyclisme, le Giro, ce Tour d'Italie et avec la belle victoire d'étape de l'Australien Jain Lee au sommet du Blocco, cette montée mythique. L'Australie confirme ainsi son statut de favori dans ce Giro. Jain Lee qui avait terminé deuxième de l'édition 2020 et après un passage à vide en 2021, il est de retour au top de sa forme. Écoutez.
Yeah, I was pretty a block actually the whole climb, so. I was just trying to survive as best as I could, actually, and then I knew it was flattening out in the last k's, and then yeah, I knew there was a right hander before the finish with like around 200 to go, so I just wanted to hit the corner first, and then just gave everything to the line, and here we are. It's pretty incredible, actually. Wasn't the easiest year I had last year, so yeah, you know, I worked my ass off to get back to the level to compete at the Giro, and I'm lost for words, honestly.
Du côté français, superbe démonstration de Romain Bardet qui se retrouve pour le moment troisième du classement général à 14 secondes seulement du leader espagnol Lopez. De gros espoirs pour le français donc et pour la France en général hein, puisque sur la route, un autre français a brillé dans l'étape reine de dimanche, c'est Nance Peters. Il aura été dans l'échappée principale, il en a même été l'acteur principal, on l'écoute.
Ouais, bah c'était une journée dure, hein, 5000 mètres de dénivelé, c'est pas souvent qu'on fait ça. Ni à l'entraînement, ni en course. Et j'ai pas fait l'échappée de la semaine, donc j'avais vraiment un cœur d'être échappé aujourd'hui. On s'est retrouvé avec Felicial devant. Lui, voilà, il découvre les grands tours. Il était venu là dans l'optique plutôt au classement général, mais bon. Voilà, du coup, on s'est dit, on fait le maximum pour faire une belle étape. Et moi, j'ai essayé d'anticiper un petit peu sur l'avant-dernier col. Je sais que le début était roulant, la fin était raide, donc il fallait que je mette à profit mes qualités. J'aime bien quand c'est plutôt roulant. Première partie de la montée pour pas céder à la fin. J'ai essayé d'anticiper un petit peu. Voilà, après, le peloton nous a laissé que 5 minutes d'avance, donc c'est trop compliqué d'envisager la victoire d'étape aujourd'hui.
Et le Giro continue dès ce soir, après l'étape de repos d'hier, une étape pour les sprinteurs comme Arnaud Démare, le français, ou encore Calabi Wan, l'australien. Un mot de football maintenant, et tout d'abord en Angleterre, en cédant 2-0 face à Newcastle après un match complètement raté, eh bien Arsenal, 5e, a perdu très gros. Les Gunners laissent en effet le 4e, Tottenham en position de force pour obtenir dimanche le dernier ticket de la Première Ligue pour la Ligue des Champions. En France, en Ligue 2, eh bien victorieux du champion Toulouse samedi lors de l'ultime journée 1-0. L'AC Ajaccio garde sa 2e place devant Auxerre barragiste et monte en Ligue 1. Le Paris FC reste quant à lui 4e et recevra Sochaux en premier tour des play-offs ce soir mardi. Le vainqueur de ce duel ira défier Auxerre vendredi pour déterminer le dernier club à accéder à la Ligue 1. Football toujours et fin de saison avec la cérémonie des récompenses individuelles. Un joueur français s'est fait remarquer dans le championnat allemand. C'est l'attaquant Christopher Nkunku. Il a été élu meilleur joueur du Bundesliga devant Robert Lewandowski. Sofiane Amazian pour Radio France Internationale.
Une saison remarquable sur tous les plans. Christopher Nkunku, 24 ans, se distingue fort logiquement comme le meilleur joueur de son championnat. Le milieu offensif a su parfaitement se fondre dans le collectif si bien huilé de Leipzig. Arrivé en provenance du Paris Saint-Germain en 2019, Nkunku monte en puissance jusqu'à devenir cette année l'homme fort de son équipe. 34 matchs de Bundesliga, 20 buts, 15 passes décisives, des statistiques dignes des meilleurs joueurs européens. Mais l'attaquant français ne s'est pas arrêté là. 7 buts marqués en Ligue des Champions, notamment ce triplé sur le terrain de Manchester City au mois de septembre dernier, premier des nombreux chefs-d'œuvre du français. Sa saison lui ouvre les portes de la sélection, première cape avec la France au mois de mars, face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Prochain objectif du français, se rendre indispensable aux yeux du sélectionneur Didier Deschamps et faire partie du voyage au Qatar parmi les 23 joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde.
C'était Sofiane Amazian pour RFI. Et le prix du meilleur joueur africain de la Ligue 1, le prix Marc-Vivien Foué, a été décerné pour cette année. C'est le joueur de Lens, l'ivoirien Seko Fofana, qui l'a remporté. On l'écoute.
Bah, écoutez, je suis très content. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, ça me tenait vraiment à cœur de gagner ce trophée. Quand j'ai vu que j'étais sur la liste, bah, je me suis dit, bon, ça va pas être facile parce que il y avait deux concurrents en face et qui font une très bonne saison aussi, qu'il faut reconnaître. Et puis, bon, même avant d'être dans la liste des trois, il y avait, je pense à, par exemple, Karl Toko qui faisait une grande saison. Plein de joueurs qui méritent d'être à ma place aujourd'hui. Et voilà, je ressens beaucoup de fierté. Et puis voilà, tout ça, c'est grâce à mes partenaires aussi.
On termine avec un mot de tennis. Et une semaine avant Roland-Garros, eh bien Novak Djokovic s'est imposé en finale du Master 1000 de Rome devant Stefanos Tsitsipas 6-0-7-6. Le numéro 1 mondial remporte ainsi son 38e tournoi italien. Un record, on l'écoute.
I pleasantly surprised myself, I can say. Even though, you know, I had a clear game plan and strategy coming into a match, I knew what was expecting me from the other side, so I knew what I have to do. But the tiebreaker, I guess, you know, I was just an inch better, maybe calmer, but it was a tight tiebreak for both of us, certainly.
Chez les femmes, c'est la Polonaise Iga Świątek qui l'a emporté pour la 5e fois d'affilée en battant la Tunisienne Ons Jabeur 6-2-6-2. Iga Świątek qui assistera elle aussi au célèbre tournoi français sur terre battue la semaine prochaine. Et lui n'y sera pas à Roland-Garros et c'est Gaël Monfils qui a annoncé son forfait à cause d'une opération à haut talon. Le français, pourtant meilleure chance tricolore du tournoi, est gêné par une blessure au pied depuis le mois dernier. Son dernier match sur le circuit ATP remonte au 3 mai à Madrid où il avait perdu dès le deuxième tour contre Novak Djokovic. Et voilà pour le journal des sports de ce mardi 17 mai 2022.
Les élections fédérales en Australie, un dossier de NACA, SBS News and Current Affairs. La coalition a lancé officiellement sa campagne électorale dimanche avec la présentation officielle d'une politique d'utiliser la pension de retraite pour acheter une maison. C'est la première fois que le parti lance la campagne dans le Queensland depuis que le conservateur Tony Abbott a gagné les élections en 2013. Le Queensland, un État qui sera crucial pour les chances de réélection du gouvernement. La coalition espère convaincre les électeurs qu'elle est mieux placée pour gérer l'économie. Scott Morrison a déclaré qu'il a géré l'Australie à travers beaucoup de situations difficiles.
As a prime minister, you've got to get the stuff done. You've got to get the stuff done. I will seek to be as a and explain my motives and my concerns and empathize a lot more. But I tell you what, at the end of the day, what matters most is I get the job done.
Scott Morrison déclare que si la coalition est réélue, les acheteurs d'une première maison pourront utiliser jusqu'à 40% de leur pension de retraite, jusqu'à un maximum de 50 000 $ pour l'achat de cette maison. Il déclare également que les personnes de plus de 55 ans pourront investir 300 000 $ dans leur pension de retraite quand elles vendent leur maison et achètent une maison moins grande.
Superannuation is there to help Australians in their retirement. The evidence shows that the best thing we can do to help Australians achieve financial security in their retirement is to help them own their own home.
Ce projet d'accès à la pension de retraite pour acheter une maison a été largement critiqué par l'opposition et les experts économiques qui disent qu'elle ne fera que rendre les maisons encore plus chères et hors de portée. Le porte-parole du Parti travailliste pour le logement, Jason Clare, a déclaré que même certaines personnalités du Parti libéral n'aimaient pas la proposition de cette politique.
It was Matthias Cormann who was the most searing in his criticism of this idea. He said back in 2014, access to super savings pre-retirement will not improve housing affordability. He said it would actually drive up house prices by more, that is, it would reduce housing affordability, including for first home buyers, and that the only effective way to tackle housing affordability is by boosting housing supply, not boosting demand.
Jason Clare a attiré l'attention sur la proposition du financement de 10 milliards de dollars de son parti pour un Housing Australia Future Fund qui, selon lui, va permettre la construction de 30 000 logements abordables au cours des 5 premières années de la mise en pratique de cette politique. Il estime que ce projet mettra un accent particulier sur les femmes et les enfants fuyant la violence domestique.
Where do you think women go when they can't get into a refuge at night? They sleep in the car with the kids, or they sleep on a friend's couch, or they go back to where the violence was happening. We need to invest more in those urgent, immediate refuges, but we've got to do so much more than that. You talk to anybody in this area that knows what they're talking about, what they tell us is you need to build more transitional and permanent housing.
Hier, le Premier ministre a également fait l'objet d'un examen minutieux suite à des informations selon lesquelles les États-Unis auraient insisté pour que l'Australie obtienne le soutien des deux principaux partis avant de signer l'accord AUKUS, l'accord en matière de défense et de sécurité, bien que les travaillistes n'avaient été informés que la veille de l'annonce officielle.
AUKUS is a groundbreaking agreement. The most significant defence security agreement Australia has entered into in over 70 years. And I was not going to risk that on the Labor Party. That report is absolutely false. We understood absolutely what the requirements were and we met them 100%.
Anthony Albanese est en désaccord.
I have national security briefings all the time. What this Prime Minister always does is put his political interest first before the national interest. It's always about the politics. What I haven't done is ever release private text messages between people, let alone between leaders of other countries.
Ce dossier de Krishani Danji pour SBS News, présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ses fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves » et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
Elisabeth Borne, nommée première ministre de la France, la ministre du Travail devient donc la deuxième femme à occuper cette fonction sous la Ve République. La première, c'était Edith Cresson, il y a 31 ans, en 1991, sous François Mitterrand. Edith Cresson qui s'est d'ailleurs dite très touchée par le discours et l'hommage d'Elisabeth Borne. Cette nomination est, selon elle, un très bon choix, parce que c'est une personne remarquable, non pas parce que c'est une femme. Fin de citation. Alors, cette nomination, justement, était pressentie. Le nom d'Elisabeth Borne n'est pas inconnu du grand public, puisqu'elle était ministre depuis 2017 et le tout début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Son portrait signé Anthony Lattier.
Le président veut réformer les retraites. Elisabeth Borne vient de passer 2 ans au ministère du Travail. Elle connaît le dossier. Elle a l'expérience du dialogue avec les syndicats. Le président veut atteindre le plein emploi. Elle a travaillé sur les questions de formation et d'apprentissage. Le président veut engager la planification écologique. Elle a déjà fait voter plusieurs lois en tant que ministre des Transports, puis de la Transition écologique. Elisabeth Borne, c'est en fait depuis 5 ans le couteau suisse d'Emmanuel Macron. 3 fois ministre, travailleuse, elle ne lui a jamais fait défaut. Sa loyauté et sa solidité sont récompensées. Là où son profil colle un peu moins, c'est sur le volet politique. Elisabeth Borne fait certes partie de l'aile gauche de l'exécutif, elle a été proche du Parti Socialiste. Sa nomination envoie un signal aux électeurs qui ont fait barrage à l'extrême droite à la présidentielle. Mais elle n'a pas de poids politique au sein de la Macronie. Elle n'a pas d'ancrage local, pas l'habitude du terrain, ça n'est pas une grande oratrice. Peut-elle mener la bataille des élections législatives à la tête de la majorité sortante? C'est là son point faible. Reconnaît l'une de ses anciennes collègues au gouvernement.
Anthony Lattier pour Radio France Internationale. Elisabeth Borne succède donc à Jean Castex à la tête du gouvernement. On écoute l'ancien Premier ministre lors de la passation de pouvoir, c'était hier à Matignon.
J'ai confiance, chère Elisabeth. D'abord, permets-moi de te le dire en toi, car je te connais. J'ai pu, je veux le dire à la nation, observer tes immenses qualités de droiture, d'intégrité, de compétence, de volontarisme, ton aptitude certaine à relever les grands défis que le président de la République a soumis au peuple français à l'occasion de l'échéance majeure qu'est l'élection présidentielle. La transition écologique, l'égalité des territoires, l'aspiration à la justice et à l'égalité, toutes ces valeurs que tu as ancrées en toi-même.
Elisabeth Borne, à peine nommée, déjà étriée par certains, sa nomination au poste de première ministre ne fait pas l'unanimité, surtout dans les rangs de l'opposition. Parmi les réactions, celle de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la France insoumise pour les élections législatives, celle d'Agnès Evrin, eurodéputée vice-présidente du Parti Les Républicains, et du côté de l'extrême droite, celle de Sébastien Chenu, il est le porte-parole du Rassemblement national et député du Nord.
Madame Borne a été la personne qui a ouvert à la concurrence la SNCF, de même qu'elle a été la femme de l'ouverture à la concurrence de la RATP. C'est celle qui refusait en janvier dernier l'augmentation du SMIC, qui s'est prononcée pour la retraite à 65 ans. C'est au total parmi les figures les plus dures de la maltraitance sociale macroniste.
D'abord, je voudrais saluer le fait que ce soit une femme. Ça faisait longtemps, je pense, que les Français l'attendaient. C'est plus une gestionnaire qu'une politique. Elle était d'ailleurs dans le précédent gouvernement. Donc, est-ce qu'elle aura un poids politique réel et suffisant pour peser en fait sur les orientations politiques ou serions-nous encore dans un exercice solitaire du pouvoir? Encore une fois, peu importe, ce qui compte, c'est que tous les angles morts de ce quinquennat sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, sur l'école, sur la maîtrise des dépenses publiques soient réellement pris en compte et qu'on ait des décisions qui soient pragmatiques pour le coup.
Et Elisabeth Borne, c'est la continuité en pire. En fait, Emmanuel Macron nous avait raconté qu'il nommerait un Premier ministre écologique et social, et quand on regarde le parcours de Madame Borne, qui d'abord est un pur produit de la technocratie française, qui n'a jamais été élue, qui ressemble finalement en cela à Emmanuel Macron, eh bien on a quelqu'un dont le parcours nous démontre qu'elle a été toujours à l'œuvre pour déconstruire le modèle social français. C'est celle qui a quand même validé la mise à pied sans indemnité des soignants au moment du Covid, des soignants qui ne voulaient pas être vaccinés. C'est celle qui a déclenché l'une des plus grandes grèves liées à la réforme de la SNCF. C'est celle qui a fermé Fessenheim. Donc on est très loin du profil écologique et social qu'Emmanuel Macron nous avait promis. Emmanuel Macron envoie ainsi signal qui est celui qu'il ne reculera pas. Et donc, il faudra une opposition solide des députés Rassemblement National pour au contraire pouvoir le faire fléchir.
On vient d'entendre dans l'ordre Jean-Luc Mélenchon, ancien candidat à la présidentielle et maintenant candidat à la France Insoumise pour les élections législatives, Agnès Evrin, eurodéputée vice-présidente du parti Les Républicains, et Sébastien Chenu, député du Nord, porte-parole du Rassemblement National. Reste maintenant à la nouvelle locataire de Matignon de constituer son équipe afin de mener à bien les chantiers annoncés par Emmanuel Macron. Écologie, santé, éducation, plein emploi, renaissance démocratique, Europe, sécurité, la liste dictée par le président est longue, avec comme priorité de ce second mandat le pouvoir d'achat et à plus court terme la bataille des législatives de juin, dernière étape pour asseoir la légitimité de la nouvelle première ministre.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Radio SBS en ligne et sur votre smartphone.
The pleasure of welcoming on SBS French, Suzanne Faulkner. Hello and welcome.
Thank you. It's nice to be with you.
And you're a writer, historian, and you've recently released your new book, Rose, the story of Rose de Freycinet, published by ABC Books. Perhaps for our Francophone and Francophile listeners, tell us a bit more about Rose de Freycinet and how you came to write about her story.
Well, I suppose the most important thing about her is that she was the first woman to circumnavigate the world and leave a written account of her journey. And as in the 17th, 18th, 19th centuries, almost all these voyages of circumnavigation were done by men and reported on by men. So we have this very this completely unique view of a voyage around the world, visiting dozens of countries, including Australia, entirely from the point of view of a woman.
And have you, since writing that story, been intrigued by the history of French explorers in the Pacific, in our region, in the 19th and 20th century?
Well, I've always been slightly interested because compared to the English, they had a very humanist view. They were interested in science, they were interested in anthropology, they were interested in natural history, whereas a lot of the English navigators were trying to expand their territory. I'll probably get into trouble for saying this, but yeah, that's one point.
And tell us, was it easy to have access material about Rose de Freycinet?
Well, no, it wasn't, strangely enough, because there's always been a bit of a fascination about the Freycinet. Well, Louis de Freycinet, of course, as you know, was the first cartographer to publish a full map of the Australian coastline. I mean, obviously it had been mapped before, but as Matthew Flinders was imprisoned in Mauritius, he had also drawn a complete map. But Louis, Rose's husband, was the first to be able to publish one. This is of course known as the Freycinet map. So that's quite famous as well.
So Rose, as you mentioned, was the first woman to write a journal of a voyage. But there are, I think, other examples of women in history like her who were disguised on a ship. I can remember reading about Jeanne Barret with the Bougainville expedition. I think it was between 1767 and 1769.
Yes. There were several. There was at least one other as well, who's with Bougainville. And probably Rose wasn't the first European woman to land on the coast of Western Australia either. That may have been one of the Dutch women from the wreck of the Batavia. But as I said, her unique position is that she was the first to write about it because the others were largely illiterate.
And how did Rose kind of get away with being on the ship without anyone knowing what was going on. I mean, there wasn't too much of a scandal about her being on the ship and traveling with her husband. It was, I think, in Cape Town, long after the expedition had set sail, that they found out. But the rumors had started in Gibraltar.
Well, there was a huge scandal in France, but of course by that stage the ship had left and was out of French territorial waters, and there wasn't much they could do about it. Rose went back to her position as the captain's wife within days of the ship leaving Toulon. The officers were invited into the captain's cabin, and she served them tea to let them know that she was there. The rest of the crew, I mean, there were 120 men on this ship, and this was a ship of, only a little bit longer than a tennis court. So, and she was, of course, the only woman, and women were often regarded as bad luck on ships. So the fact that the crew accepted her is also quite unusual. But she was restricted to a very small area of the ship. I mean, she couldn't go into the forecastle where all the men slept. So she had a small poop deck and the cabin, and she pretty much was restricted to that area.
So what did she do, write her journal?
She was very well educated. She was the daughter of a widowed school teacher. She was very well read. She had a smattering of several languages. She was musical. While she was on the ship, she taught herself to play the guitar so she could accompany Louis when he sang. He apparently had quite a nice voice, and the officers used to enjoy sitting some distance away listening to the two of them singing and playing. So there was that. She did a lot of sewing. She kept her journal. She wrote letters on her husband's behalf when he was too busy. She read about all the countries that they were approaching. But she also had certain duties that Louis entrusted to her during the voyage. Louis had a chef, a cook, to serve the captain's table, and his own provisions separate from the main mess. I mean, there were three messes. There were the officers' mess and the sailors' mess. But she took charge of provisions and allotting them to the chef and planning the meals. And even on shore, she took charge of buying new supplies for their own larder. So she was kept quite busy.
Et enfin, d'émission, un rappel des grands titres de ce 17 mai. Le gouvernement fédéral publie les coûts de ses propositions politiques de la campagne électorale, s'engageant à économiser 1 milliard de dollars supplémentaires au cours des 4 prochaines années. Le vice-ministre ukrainien de la Défense a confirmé que plus de 260 combattants, dont certains grièvement blessés, ont été évacués de l'aciérie d'Azovstal, dans le sud-est de l'Ukraine, et emmenés dans des zones sous contrôle russe. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de Radio SBS. Entre-temps, n'oubliez pas de télécharger nos podcasts gratuitement sur sbs.com.au/french. Et je vous laisse avec Angèle qui nous interprète Libre. Belle journée, à bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.